Vous écoutez France Musique.
Coucou Mitingani, se pensi che l'anni non hanno a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Sogno la vita che pare si gradita e breve il gioire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non va la medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Belletti à vous sur France Musique, c'est le matin des musiciens estival. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors, hier nous parlions du mystère, du grain de la voix. Ce matin, je propose de vous intéresser, de nous intéresser ensemble à tous les jeunes musiciens baroques, mais pas seulement, que nous avons reçus dans ce matin des musiciens. C'est une génération tout à fait particulière. Nous recevons bien sûr des grands maîtres, mais aussi la voix des élèves. Et c'est une génération entre 25 et 35 ans tout à fait particulière parce que, à la différence de leurs aînés, cette génération est née quasiment avec des théorbes et des clavecins dans les mains. Et ça, c'est une chose tout à fait nouvelle au regard de ce qui se passe dans la musique baroque depuis son renouveau, depuis une bonne quarantaine d'années. C'est-à-dire que des violonistes ne commencent pas le violon moderne pour ensuite basculer au violon baroque, ils ne commencent pas la guitare classique pour ensuite aller vers le théorbe, ils ne commencent pas le piano pour ensuite aller vers le clavecin, le pianoforte, ils commencent directement à jouer de la musique baroque. Alors pour ouvrir ce matin des musiciens, un des plus talentueux musiciens de cette jeune génération, c'est Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion, dans cette fameuse messe en si, mais originelle, type messe brève de 1733, Dresde, Raphaël Pichon, Pygmalion. Le magnifique Kyrie de la messe en si, messe en si dans le format messe brève, messe originale de 1733, interprété par l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon pour un disque alpha. Très très belle version qui permet d'entendre cette œuvre différemment et puis surtout ce rapport très particulier de Bach à la cour de Dresde, une cour que le cantor de Leipzig visite à plusieurs reprises, trois fois, 1717, en 25, en 31. Il assiste en 1733, donc l'année de cette messe, à la nomination de son fils Wilhelm Friedmann comme organiste de Sainte-Sophie, où d'ailleurs le grand facteur Silbermann avait construit un nouvel orgue absolument sublime, paraît-il. Et puis, avant 1733, Bach avait composé quelques petites œuvres en latin, un petit Sanctus par ici, un petit Magnificat dans les années 1720, mais pas plus que cela. Et c'est pour ça que cette messe, très importante au regard de l'histoire, est sublime, importante dans le rapport aussi de Bach à Auguste Lefort, qui meurt en 1733. Et c'est d'ailleurs pendant le deuil national de 6 mois qui imposait le silence à tous les musiciens d'Allemagne du Nord que Bach peaufina cette composition en écrivant une messe entière qui pourrait être exécutée. Et en faisant cela, vraisemblablement, Bach espérait que le successeur d'Auguste Lefort soit plus clément quant au traitement de Bach à Leipzig ou même à Dresde. Dresde où Bach sera nommé en 1736. Alors si vous nous rejoignez sur France Musique, c'est un matin des musiciens estival consacré aux jeunes musiciens, à la nouvelle génération des musiciens baroques et un théorbiste absolument hallucinant, un ovni parmi les ovnis qui travaille aussi avec Pygmalion, c'est Thomas Dunford. Dernier disque de Thomas Dunford consacré au toccata de Kapsberger. Thomas Dunford qui fait partie de cette génération extrêmement talentueuse, virtuose, musicien baroque. C'est le fils de Jonathan Dunford et de Sylvia Abramovic. Il n'a fait que du luth, Thomas Dunford. Je crois qu'il a une guitare à l'âge de 6 ans, mais c'est pas plus que cela. Et c'est ça qui est intéressant. Il a commencé le luth avec Claire Antonini à l'âge de 8 ans. Il a suivi Pascal Boquet, qui lui prête aussi un luth dans ces années-là. Puis tout va très vite pour lui, puisqu'il rentre à l'école de Bâle, à la Schola Cantorum, à l'âge de 18 ans. Il fait 3 ans avec Hopkinson Smith, et puis c'est fini. C'est quelqu'un que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer assez jeune, quand il avait 16-17 ans, et qui jouait déjà extrêmement bien. Il a enregistré un premier disque consacré à Dowland. Le deuxième, c'est celui-ci, consacré à Kapsberger. Kapsberger qui, finalement, est un petit peu un compositeur aussi ovni que lui. Ovni, c'est comme cela que le définissait Rolf Liselevand, qui est aussi venu très souvent dans le matin des musiciens, et qui disait, pour moi, Kapsberger, c'est un petit peu entre Stockhausen ou le Chick Corea de la fin du XVIIe siècle. C'est quelqu'un qui bouscule l'harmonie parfaite de la Renaissance, qui accentue le clair-obscur en musique et qui compose trois types de pièces, soit des pièces descriptives avec notamment des instruments comme le colacione, des danses type bergamasque, des basses obstinées, passacaglia chaconne, ça c'est classique. Et puis, c'est là où la poésie de Kapverger est la plus belle, des formes complètement libre, enfin pas seulement, en tout cas de rhétorique plus ou moins libre, qu'on appelle donc des toccatas. Un autre exemple sous les doigts de Thomas Dunford. Une toccata de Kapverger sous les doigts de Thomas Dunford, absolument magnifique. Thomas Dunford, jeune musicien, plus si jeune que cela, mais qui est très très virtuose et qui, je me rappelle quand il était venu dans le Matin des musiciens avec Anna Reinhold, qui figure d'ailleurs sur ce disque Kapverger, il avait décidé, Thomas Dunford, d'enregistrer dans le noir en me disant « Mais attends, ça va pas du tout cette lumière dans le studio 118, il faut absolument baisser ça ». Et je me rappelle de ne même pas l'apercevoir jouer et de juste l'écouter. Et d'ailleurs, en l'écoutant, je me demandais toujours à quel volume il fallait écouter cette musique. Vous savez, dans les premiers disques de Théorbe ou de Lutte, notamment de Hopkinson Smith, il y a parfois des mentions où on voit les éditeurs qui disent, voilà, il est recommandé de ne pas écouter très fort cette musique pour trouver une sorte de projection naturelle. Là, il se trouve que moi, j'écoutais ça à fond ici, dans le studio du Matin des Musiciens. Et puis Thomas Dunford, qui joue très souvent avec beaucoup d'ensembles, bien sûr, mais avec un jeune ensemble, la Sainte Folie Fantastique, référence à la Symphonie Fantastique, bien sûr, de Jérôme Van Verbeek, Lucille Boulanger, extraordinaire violiste, et Arnaud de Pasquale, aussi très bon claveciniste, qui ont monté un ensemble il y a 2 ans et qui a fait paraître un disque chez Alpha, leur premier, dans un répertoire tout à fait intéressant, de sonates à deux de l'Angleterre et de l'Allemagne. Alors c'est vrai que la sonate en trio de la fin du XVIIe, vous voyez Purcell 1683, mais surtout Corelli à Rome. Là, nous sommes un petit peu avant, nous sommes dans les années 1620-1660. La sonate en trio ne s'appelle pas encore comme ça, c'est la sonate à deux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas deux dessus, que ce soit flûte ou pas spécifié ou violon, c'est spécifié violon d'un côté et basse de viol de l'autre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout en Italie, mais entre l'Allemagne et l'Angleterre, avec un jeu de questions-réponses absolument incroyable qui figure dans un manuscrit redécouvert par la Sainte Folie Fantastique, manuscrit anglais de la cathédrale de Durham, au nord de l'Angleterre. Écoutez bien, il y a des compositeurs comme William Young, Dietrich Becker ou Henry Butler, la Sainte Folie Fantastique.
Thank you.
Une sonate anonyme avec plusieurs séquences interprétées ici par la Sainte Folie Fantastique. Jérôme Van Berbeck, Lucille Boulanger, Arnaud de Pasquale et Thomas Dunford, disque consacré au manuscrit d'Durham, au nord de l'Angleterre, à ce répertoire des sonates à deux entre 1620 et 1660, répertoire absolument fascinant, en cela qu'il précède d'une bonne quarantaine d'années tout ce qui se passe en Italie, qu'on appellera par la suite sonate en trio. Alors, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours dans ce matin des musiciens estival consacré aux jeunes musiciens de la scène baroque. Il y avait donc Lucille Boulanger ici, formidable violiste, qui joue aussi très souvent avec l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé. Alors maintenant, vous fermez les yeux et vous vous imaginez à l'abbaye Saint-Pierre de Montmartre dans les années 1640. Magnifique disque de l'ensemble correspondance de Sébastien Dossé sur France Musique avec cet Ave Mater Pia, disque consacré au manuscrit des Lauriers, conservé à la Bibliothèque Nationale de France et ayant appartenu à Sébastien de Brossard, ensemble correspondance qui s'intéresse un petit peu dans la lignée des Demoiselles de Saint-Cyr, beaucoup et qu'il fait très bien d'ailleurs, à ce répertoire 17e, premier 17e français, et notamment cette musique de couvent qui, pour le coup, manuscrit des Lauriers ici, a une histoire tout à fait particulière. On a cru que ces motets mariales étaient en fait le fait de Jean-Baptiste, le fils d'Antoine Boisset, mais en fait pas du tout. Un musicologue, Peter Bennett, estime en réalité que cela était de la main d'Antoine Boisset pour le couvent, pour l'abbaye Saint-Pierre de Montmartre à Paris dans les années 1640. Et c'était un grand fournisseur de motets, ce qui permet aussi de relativiser un petit peu la figure d'Antoine Boisset, compositeur, surintendant de Louis XIV, qui compose des airs de cour, mais qui compose aussi également beaucoup pour des couvents de religieuses parisiennes. Et c'est toute une partie de ce proto-baroque, on va dire, français tout à fait intéressante, domaine de la pure dévotion, qui est très peu versé dans l'ostentatoire et le politique. C'est un espace intérieur que fait à merveille résonner correspondance de Sébastien Dossé, et qui est un petit peu à l'opposé des grands motets versaillais. D'ailleurs, on a appelé les petits motets en référence au fait que les motets à grand cœur ont été appelés par la suite grands motets. Donc l'ensemble correspondance est un ensemble que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'entendre en concert. C'est vraiment, grâce à la personnalité de Sébastien Dossé, un très très bel ensemble. Et dans cet ensemble-là, il y a Lucille Boulanger, bien sûr, très souvent, et aussi une chanteuse qui est venue dans le matin des musiciens, une mezzo absolument incroyable, Lucille Richardot. Salus Infirmorum, magnifique motet de Marc-Antoine Charpentier par l'ensemble Correspondance dirigé par Sébastien Dossé qui a été mis dans le Matin des Musiciens. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce Matin des Musiciens tout à fait estival. Alors nous restons à peu près dans les mêmes années, 1680-1690, avec un ensemble qui a consacré un très beau deuxième disque à Corelli, c'est l'ensemble Stravaganza. Un petit extrait d'une sonate de Reali par l'ensemble Stravaganza pour leur deuxième disque consacré à Corelli. L'ensemble Stravaganza, c'est Domitille Guillon, Louis Créache, Marjolaine Cambon, Damien Pouvreau et Thomas Soltanier au clavecin qui dirigent l'ensemble, qui était venu dans le Matin des Musiciens. Et c'est vrai qu'ensemble, nous avions questionné toute la difficulté de cette magnifique musique apollinienne de Corelli. À sa manière, musique du retrait, de la prière, de la méditation, 5 opus, moins de 10 heures de musique en tout et pour tout, une harmonie évanescente qui brille comme d'ailleurs un petit peu la métaphore soufie de la flamme, c'est-à-dire qu'il faut s'en approcher mais pas trop, un petit peu à la manière d'ailleurs du poids de l'archet, c'est-à-dire à la fois rentrer dans la corde et être un tout petit peu en retrait, laisser les sons filés résonner, se méfier de la rupture et de l'intonation, car c'est une intonation absolument redoutable que la musique de Corelli met en place. Et c'est justement ce principe de clarté, d'équilibre et d'ordre qui peuvent se combiner aux passions du cœur. Il y a beaucoup d'affetti dans la musique de Corelli. Et surtout, cet imaginaire, ce contexte qui vit la naissance de la musique de Corelli, Palais romain, fin 17e, début 18e, retrouver une forme de tragique dans la magnificence austère de sa musique servie par l'ensemble Stravaganza.
Thank you.
La 8e sonate de l'opus 3 d'Arcangelo Corelli, interprétée par l'ensemble Stravaganza de Mithil Gilon et Thomas Soltani à la direction, alors de Rome à Mantoue, d'un ensemble français qui joue du répertoire italien à un ensemble israélien implanté en Suisse qui chante du répertoire italien de confession hébraïque. Je veux parler de l'ensemble Profetae della Quinta dans Salomone Rossi, typiquement baroque. Un psaume en hébreu de Salomone Rossi, interprété par Profetae della Quinta, dirigé par Elam Rotem avec Ori Armelin, Dan Dunkelbaum, Lior Leibovici, David Feldman et Doron Schleifer, qui étaient venus dans le matin des musiciens pour nous parler et enregistrer ces psaumes en hébreu tout à fait particuliers dans l'histoire de la musique. Psaume en hébreu de ce compositeur Salomone Rossi qui évoluait à la cour de Mantoue, qui était un collègue de Monteverdi. Ce juif de Mantoue qui était autorisé à ne pas porter l'écusson de l'étoile juive. Mantoue, c'est une cour à la fois libérale et très autoritaire, avec beaucoup de ségrégation, puisque c'est une des premières cours à dresser un ghetto qui sera détruit dans les années 1630. On perd d'ailleurs la trace de Salomone Rossi qui meurt dans ces mêmes années. Dans le ghetto, on ne sait pas trop s'il meurt de la peste ou s'il est tué justement par le sac de ce ghetto. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Salomone Rossi est un pur enfant de son temps qui a composé des madrigaux, des psaumes en hébreu qui visaient quelque part à réformer la liturgie synagogale de l'Italie du Nord, Mantoue, Modène, Venise. Il a eu évidemment ses détracteurs au sein de sa propre communauté, mais certains rabbins acceptèrent de faire jouer sa musique pendant l'office. On n'en sait pas plus en réalité sur cette musique interprétée dans les synagogues de l'Italie du Nord début 17e. On sait aussi qu'il était très bon violoniste virtuose, qu'il a vraisemblablement joué aux côtés de Monteverdi, qui jouait la basse de viol ou la bastarda, et que sa sœur, Europa, fut une des premières chanteuses, si ce n'est la première chanteuse juive de confession hébraïque, à chanter dans les premiers opéras de Claudio Monteverdi. Alors à côté des psaumes en hébreu, et c'est ce que nous ont appris les Profetae della Quinta, eh bien Salomone Rossi a beaucoup composé également, en enfant de son temps, des madrigaux sur les mêmes textes que Monteverdi, notamment comme ce Sfogava con le stelle sur un poème de Rinuccini. Sfogava le stelle sur un poème de Rinuccini dans la version de Salomone Rossi par I profeti della quinta dirigée par Elam Rotem qui était venu dans le matin des musiciens et sur un sujet absolument passionnant et cette figure presque mythique, mythologique parce que on peut aussi imaginer que Claudio Monteverdi en côtoyait pendant à peu près 15 ans, un peu moins de 20 ans, ce Salomone Rossi qui jouissait d'un statut particulier. Peut-être que Monteverdi a aussi un petit peu pris de ses expérimentations du côté des psaumes en hébreu de Salomone Rossi. Alors, non plus en Suisse, comme les prophéties de la Quinta qui sont implantées à Bâle, mais en Belgique, il y a aussi un ensemble monté par un jeune prodige, Scherzi Musicali, de Nicolas Acten, qui est une personnalité assez précoce aussi, comme beaucoup, c'est vrai que c'est toujours très impressionnant, qui est né à Bruxelles en 1985, d'une famille non musicienne, qui commence la musique, je crois la guitare, dans le scoutisme, et qui va monter son premier ensemble, donc Scherzi Musicali, à l'âge de 15 ans. Il rencontre énormément de personnalités de la musique baroque, Andrea Scholl. Il a le projet de rentrer à la Scola Cantorum de Bâle, mais finalement laisse tomber. Il y est admis, il rencontre aussi et côtoie beaucoup Frédéric Haas, Christina Pluart. Il y a d'ailleurs dans l'esthétique même des cordes de pincée de Scherzi Musicali, beaucoup de l'arpeggiata de Christina Pluart. Il est finaliste dans plusieurs concours, il rentre au conservatoire de Bruxelles comme accompagnateur et puis il est prof de harpe ancienne et de luth. En fait, c'est un multi-instrumentiste qui fait du clavecin, de la harpe, du luth, de la flûte aussi, et qui a enregistré 4 disques, dont la Catena Donne de Domenico Mazzocchi. Et puis, encore avant, un disque où on retrouve une personnalité liée à cet opéra de Mazzocchi, c'est Giovanni Felice Sanchez, qui est le frère du chanteur qui chantait dans la Catena d'Adone. Giovanni Felice Sanchez, qui est donc un compositeur qui a une brillante carrière à Vienne dès 1637, comme chanteur et compositeur de la chapelle impériale, et qu'on entend ici dans ce magnifique Salve Regina.
Thank you.
Nicolas Acten et son ensemble Scherzi Musicali dans un Salve Regina de Giovanni Felice Sanchez. À l'époque, Nicolas Acten avait seulement 25 ans. C'était en 2010 et déjà une très très belle maturité musicale. Si vous nous rejoignez sur France Musique, c'est le matin des musiciens de l'été qui continue avec une surprise, pardon, avec les surprises. Que les vents les plus doux de François Rebelle et François Francoeur, extrait du Ballet de la Paix par l'ensemble Les Surprises, dirigé par Louis-Noël Bession de Camboulas et Juliette Guignard, qui était venue dans le matin des musiciens, un matin des musiciens consacré à ce couple un petit peu bizarroïde, à la Verlaine et Rimbaud, sauf que ça ne se finit pas du tout avec un coup de pistolet. Mais Rebelle et Francoeur sont des compositeurs qui ont composé ensemble, ce qui est un cas absolument unique dans l'histoire de la musique. On imagine qu'ils étaient peut-être un petit peu plus amis que cela, et qui composent dans une sorte d'état de transe absolue, en très peu de temps, leur premier opéra à l'âge seulement de 25 ans. Il s'agit de Pyra Métisbé en 1726. Et Rebelle et Francoeur, c'est un couple évidemment très attachant qu'on avait découvert avec l'ensemble Les Surprises, qui composent ensemble et puis qui ont une carrière, on va dire, institutionnelle tout à fait intéressante, concert spirituel que Rebelle dirige entre 1734 et 1748, directeur à deux également de l'Académie royale de musique en 1757. Il commande à Rameau fameux Surprise de l'amour pour l'ouverture de l'Académie royale, la réouverture sous leur direction. Et puis cet ensemble, Les Surprises de Louis-Noël Bession de Camboulas, qui a un son tout à fait particulier, très français, qui arrive à intégrer la dimension populaire de cette musique début 18e, comme ici, toujours dans le Ballet de la Paix de Rebelle et de Francoeur.
Thank you.
une suite de danse de François Rebelle et François Francoeur, le Ballet de la Paix, extrait du dernier disque et premier disque de l'ensemble Les Surprises, dirigé par Louis-Noël Bestion de Camboulas et Juliette Guignard sur France Musique. Alors, pour finir, eh bien, un autre ensemble jeune musicien que nous avions reçu dans le Matin des Musiciens, c'est l'ensemble L'Aquéron de François Joubert-Caillé avec Lucie Boulanger qu'on écoutait en début d'émission, Marion Martineau, Andreas Lino, Sarah Van Oudenov et puis Johan Moulin qui était à l'Ottavino, petit clavier, autour d'un compositeur, Anthony Holborn, qui est mort en 1602, un an avant la fin du règne d'Élisabeth, et qui fait paraître un recueil en 1599 tout à fait particulier en cela qu'il n'est pas uniquement composé de danses type Gaillard, pavane, allemande, mais aussi d'air avec un Y, both light and grave, c'est-à-dire littéralement des airs de lumière et de gravité, et que aussi dans ce recueil, les danses portent parfois des noms. Alors c'est le grand règne de la mélancolie anglaise par L'Aquéron. The Image of Melancholy, l'image de la mélancolie d'Anthony Holborn, interprété par l'ensemble Lacqueron de François Joubert Caillet, pour refermer ce matin des musiciens estival, qui a été réalisé par Perrine Mingui, avec à la prise de son et au mixage Philippe Bredin. On continue bien sûr la semaine ensemble jusqu'à vendredi avec une petite surprise. Vendredi, puisqu'on vous fera entendre un matin des musiciens enregistré avec le claveciniste Jean Rondeau et son tout nouvel ensemble Nacarenza, qui a été enregistré en juin dernier. Donc surtout, ne manquez pas l'événement. On se retrouve demain, même heure, même studio, mêmes ondes. Passez une très bonne journée sur France Musique. Ciao, bye bye.